France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
Cette semaine, on vous a préparé une série spéciale égyptologie. Pour ce premier épisode, on commence avec les emblématiques pyramides. Que nous enseignent-elles des sciences et des techniques de l'Égypte antique ? Ces édifices funéraires offrent aux égyptologues l'une des plus grandes concentrations de savoir de l'époque. Ces gigantesques tombeaux sont des tours de force technologiques. Développés dès le 3e millénaire avant notre ère, leur conception et leur construction, longtemps restées mystérieuses, ont fait l'objet d'un grand nombre de spéculations. Comment a-t-on pu acheminer les 2,5 millions de blocs de la pyramide de Khéops à travers tout le pays ? Et au-delà de ces énigmes logistiques, comment les monuments eux-mêmes, pouvant atteindre les 150 mètres de hauteur, ont-ils été assemblés ? Pyramide, bloc en stock. Emmanuel Larose, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un architecte ingénieur de recherche au CNRS Laboratoire Orient et Méditerranée. Nous sommes en ligne également avec Franck Monnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur égyptologue, chercheur CNRS dans l'équipe ASAE Laboratoire Arscan. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous d'être là à l'écoute en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à suivre cette émission également en nous rejoignant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous des liens, des images, des podcasts pour enrichir votre écoute. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quels sont les vestiges archéologiques qui nous renseignent sur leur conception? Quels ont été les calculs, la mathématique à la base des pyramides? Et que peut l'archéologie expérimentale pour percer à jour ces derniers mystères? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour. Nous sommes en 1956, direction Le Caire.
Eh bien écoutez, pour commencer, je vais vous demander de m'autoriser à utiliser ce que l'on ne fait jamais dans les émissions de la radio et surtout dans les vôtres, c'est-à-dire d'agiter le vieux cliché. J'en suis désolé, mais je crois que le voyageur qui arrive en Égypte est tout d'abord impressionné, intéressé par les pyramides et par tout l'ensemble que l'on lui montre dès son arrivée en avion.
C'est d'ailleurs la première chose qu'on voit d'avion.
C'est effectivement la première chose, et je dois dire, c'est également le premier endroit auquel le touriste se rend aussitôt débarqué au Caire. Mais je vous avoue très franchement que c'est chaque fois avec la même curiosité et chaque fois avec un choc nouveau, mais un choc toujours aussi réel, que je me retrouve devant ce paysage.
Est-ce que ça faisait partie des sept merveilles du monde, les pyramides ?
Je ne crois pas me souvenir que cela ait été inclus dans les sept merveilles, mais je vous assure que c'est une des merveilles du monde actuelles qui vous donne le plus l'impression de revivre ce passé qui, comme vous le savez, s'étend sur plusieurs millénaires. Vous quittez le Caire sur cette longue route sablonneuse qui d'ailleurs se construit de plus en plus de part et d'autre d'immeubles nouveaux et même de gratte-ciel, et brusquement, ce fameux choc que je vous décrivais, vous voyez surgir à l'horizon une masse brune qui est la première et la plus importante des pyramides.
Voilà, Édouard Sablier sur la RDF en 1956. Emmanuel Larose, pour vous aussi, chaque fois c'est un choc nouveau quand vous vous rendez sur place?
Ah oui, ce sont des ouvrages vraiment extraordinaires, non seulement par leur évidemment par leurs dimensions qui sont époustouflantes et qui sont restés d'ailleurs des monuments les plus hauts pendant près de 4000 ans. Donc en fait, c'est ça force l'admiration et puis on pense à tous ces hommes qui ont œuvré à la construction de ces ouvrages, ces formes aussi qui sont intemporelles, qui sont très pures. Et oui, donc c'est effectivement toujours même émotion.
Franck Monnier, j'imagine que c'est un émerveillement que vous partagez, vous aussi, également.
Exprimé Emmanuel, c'est... On ne se lasse pas, en fait, de l'effet que procurent les pyramides quand on se retrouve face à elles. On est un peu saisi par la masse, voilà, par le volume, par l'impression que l'on ressent en étant au pied de ces masses gigantesques.
Alors là, on parle d'émerveillement, mais on voit aussi que les pyramides, depuis très longtemps, et pas seulement aujourd'hui, à notre époque, que le mystère de leur construction, ça polarise l'imaginaire collectif depuis des siècles. Ça aussi, c'est quelque chose, Emmanuel Larose, que vous comprenez?
Oui, parce que en fait, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens sur leur construction, sur la méthode qui a été appliquée pour bâtir et pour concevoir. Et puis, bâtir ces monuments-là. Et effectivement, donc ça, il y a beaucoup de fantasmes sur ces ouvrages. On a malgré tout beaucoup de réponses sur la construction, sur l'acheminement des blocs, mais effectivement, certains points restent difficiles à interpréter et à comprendre.
Et on va voir justement quels sont ces points encore mystérieux, quelles sont les dernières avancées sur la question des pyramides. Mais d'abord, peut-être, Franck Monnier, on peut peut-être revenir sur l'historique de ces monuments, comme on le dit, aux dimensions époustouflantes. Un type particulier de tombeau, qui est quand même plutôt destiné au roi, au pharaon. À partir de quand ces édifices-là commencent-ils à émerger?
Alors, la première pyramide apparaît vers 2700-2750 avant Jésus-Christ. Il faut savoir que jusque-là, les rois se faisaient construire des mastabas. Donc un mastaba, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tombeau de forme rectangulaire, assez volumineux hein, déjà. Hein. Il y en a qui font 60-70 mètres de long. Mais à partir du règne du roi Djoser, donc vers 2750 avant Jésus-Christ, le roi décide de se faire bâtir une tombe plus monumentale. Voilà, beaucoup plus haute, plus grande. Pour la première fois en pierre, puisque jusque-là on construisait en brique. Donc on choisit un matériau qui est fait pour durer. Voilà, pour durer des millions d'années, hein, suivant l'expression égyptienne. Donc le mastaba devient pyramide. Alors, à la suite de divers tâtonnements quand même, hein, on ne décide pas du jour au lendemain de construire une pyramide. On met en œuvre des techniques, on invente des techniques qui permettent d'envisager, en fait, de construire un monument qui s'élève plus haut. Voilà. C'est à partir de ce moment-là qu'on a une pyramide à degrés, à gradins.
C'est ça, Emmanuel Larousse, cette idée, on est passé donc du mastaba à autour de moins 2650 avec ce pharaon Djoser. On peut empiler finalement des mastabas sur des mastabas. C'est comme ça que naît le premier concept de pyramide à degrés.
Oui, en fait, c'est une période qui est assez fascinante car effectivement, jusque-là, on construisait essentiellement en briques. Et à partir de cette époque, on commence à construire avec des blocs de pierre. Donc il faut imaginer qu'à cette période-là, il y a eu un déclic, il y a eu certainement des avancées technologiques et probablement d'ailleurs en termes de métallurgie, ce qui a permis de faire des outils qui permettaient de tailler la pierre et de la travailler de façon de beaucoup à une échelle qui était jusque-là pas du tout la même. Et c'est ces avancées certainement qui ont permis voilà de en voilà parce que l'ancien empire c'est 400 ans et en 400 ans c'est prodigieux ce qui a été bâti.
Alors comment on est passé, Franck Monnier, justement de ces pyramides à degrés vers les premières pyramides lisses? Il y a eu quand même des formes intermédiaires avant de voir nos iconiques pyramides.
Oui, alors la pyramide à degrés en fait adopte cette forme en raison de sa technique de construction. C'est-à-dire qu'en fait, vous disiez tout à l'heure que c'était une sorte de succession de mastabas, comme ça, qui s'amenuisait vers le haut. Mais en fait, si on fait une vue en coupe de la pyramide, on se rend compte que ce sont des tranches, des sortes de contreforts disposés les uns contre les autres, avec des assises de pierre inclinées vers l'intérieur, pour éviter que tout ne bouge, par exemple, en cas de séisme, vers l'extérieur. Alors, c'est quelque chose qui se comprime vers le centre de l'édifice. Et à un certain moment, donc sous la 4e dynastie, à partir du roi Snéfrou, donc le père de Khéops, on décide de ne plus construire de pyramide à degrés avec cette technique des blocs inclinés vers l'intérieur, mais on décide de construire les pyramides avec des assises planes, horizontales. Voilà, on pose les blocs de manière horizontale et on dresse une pyramide à face lisse, c'est-à-dire un profil triangulaire. Voilà. Donc, cet abandon de la technique des blocs inclinés vers l'intérieur permet en fait de manipuler et de transporter des blocs beaucoup plus gros. Voilà. C'est surtout ça l'avantage. Et comme ces blocs sont beaucoup plus gros, on est obligé de les poser à l'horizontale. Voilà, il y a comme ça une sorte d'influence de la technique de construction sur la forme adoptée aussi. Il y a aussi une fonction symbolique qui n'est pas négligée. Hein. Il y a une sorte comme ça de compromis entre la technique et puis la signification même de la pyramide.
Et ça aussi, on verra comment, sur ses fonctions symboliques, sur l'interprétation de ces monuments, on y reviendra. Je continue, pareil, hein, sur cette naissance de la pyramide lisse. La première tentative réussie de pyramide à face lisse, qui est toujours debout aujourd'hui, c'est la pyramide rouge de Dachour, Emmanuel Larose.
Oui, c'est une. En fait, Snéfrou a construit trois pyramides. C'est une période où il a expérimenté en fait des choses. Et c'est donc encore une fois, on construisait en pierre pour la première fois. Et cette période est marquée par d'énormes innovations. Et ces premières pyramides ont été l'occasion d'expérimenter des systèmes de couverture à l'intérieur. On a changé la disposition des appartements à l'intérieur. Donc on a cherché comme ça, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, puisque les deux premières pyramides de ce roi ont probablement été abandonnées car il y avait des problèmes structurels à l'intérieur. Donc en fait c'était compliqué. Ils n'ont pas réussi au premier coup. Par contre, celle de la pyramide rouge est effectivement une pyramide parfaite qui a perdu son parement. Mais qui est quasiment intacte.
Qui a perdu son parement, puisque ça veut dire qu'à l'époque, elle était recouverte d'une couche de calcaire, c'est ça ?
Alors, c'est ça. C'est-à-dire que ces pyramides-là, pour augmenter leur aspect, leur abstraction, on les recouvrait d'un calcaire particulier, qui était le calcaire dit de Toura, qui était un calcaire très fin et qui permettait d'être parfaitement poli, les joints disparaissaient, et donc on n'avait plus qu'une masse qui apparaissait. Et ce parement en calcaire a été récupéré. Il était très prisé au Moyen-Âge en particulier, mais dès l'Antiquité d'ailleurs, puisque plusieurs pyramides ont été pillées à l'Antiquité, ce parement a été récupéré et souvent ont disparu. Sauf dans la rhomboïdale, la rhomboïdale a conservé ce calcaire.
La pyramide rhomboïdale de Dachour. En effet, donc il faut imaginer une masse blanche étincelante sous le soleil d'Égypte. Franck Monnier, finalement, à partir de là, on voit que c'est à partir de la pyramide rouge de Dachour, c'est un millénaire de pyramides à face lisse qui s'ouvre en Égypte. Et puis, on a la fameuse, la grande pyramide de Gizeh, la grande pyramide de Khéops. Mais là encore, il n'y a pas que la pyramide de Gizeh dans la vie, Franck Monnier.
Oui, voilà, c'est la pyramide de tous les records, hein, de tous les superlatifs. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, elle a conservé ses records durant plus de 4000 ans. Quel autre monument, quelle autre création humaine gardera de tels records pendant une durée aussi longue ? Sans doute aucune autre. Donc la pyramide de Khéops, à ce titre, conservera toujours un statut particulier dans l'histoire de l'humanité. 146 mètres de haut, 230 mètres de côté, c'est assez énorme. Oui.
Alors pourquoi les pyramides qui ont résisté au passage du temps, Emmanuel Larose, sont quasiment systématiquement les plus anciennes ?
Les plus anciennes, parce que c'était les premières ont la particularité d'être construites avec des très gros blocs. Toutes les pyramides de Snéfrou, de Khéops, puis de Khéphren, qui sont parmi les premières, aussi les plus grandes, sont construites avec des blocs qui font environ 2 tonnes, à peu près 1 mètre cube, pour l'essentiel, hein, parce qu'il y a des blocs plus gros qui sont parfois utilisés. Mais je pense que c'est surtout lié à cet aspect-là de la maçonnerie. Puisqu'après, les suivantes seront construites avec des techniques un petit peu différentes et avec des blocs beaucoup plus petits.
Franck Monnier ?
Oui.
Pourquoi justement ces pyramides les plus anciennes ont toutes survécu au passage du temps et pas forcément les plus récentes ?
Oui, alors comme Emmanuel l'a expliqué, hein, je pense que c'est le mode de construction qui est principalement responsable. On pourrait dire que, alors ce serait sans doute un habile langage de dire qu'elles étaient mieux bâties, mais elles étaient plus solidement bâties en fait. Voilà, le fait d'avoir une masse compacte de gros blocs comme ça, c'est forcément beaucoup plus difficile à détruire, parce que les hommes sont acharnés aussi à détruire. Ils sont aussi inventifs dans la destruction que dans la construction, quelque part. Donc, ce qui fait que, quand on enlève les blocs de parement, qu'on se retrouve, par exemple, avec une masse de matériaux hétérogènes, avec des graviers, etc., la pyramide ne ressemble plus à rien. Et ça, c'est une caractéristique, par exemple, des pyramides des 6e dynastie, des plus tardives. Donc celle dont on a ôté le parement, elle ressemble aujourd'hui à des collines un peu informes comme ça. Par contre, les plus anciennes, où il y a des gros blocs un peu partout, même à l'intérieur, là, elles ont encore conservé une belle forme de pyramide, comme la pyramide de Gizeh.
voilà, des pyramides plus solidement bâties. Bien justement, que sait-on des techniques de conception, les dessins, la géométrie, tout ce qui a présidé à leur construction? Restez à l'écoute, on y arrive.
Il faudrait 3 millions de blocs semblables avant d'achever le travail. 3 millions de pierres d'un poids moyen de 5000 livres. Et il fallait que chacune de ces pierres fût taillée pour s'ajuster exactement à la place qu'on lui destinait dans la grande pyramide.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, c'est notre premier épisode de notre série consacrée à l'égyptologie. Aujourd'hui, épisode 1, la construction des pyramides avec Emmanuel Larouze et Franck Monnier. On vient de voir que les peuples de l'Égypte antique ont construit des pyramides pendant plus d'un millénaire, de moins 2700 à moins 1500 environ. À l'époque, on était parvenu à assembler le summum des compétences scientifiques disponibles. Emmanuel Larouze, avant de bâtir ces pyramides, il a fallu les imaginer, les dessiner. Est-ce qu'on a des traces de tout ça?
Alors c'est vrai que c'est des questions qui, en tout cas pour les architectes, qui nous intéressent particulièrement. Malheureusement, non, il n'existe aucun document qui témoigne de la conception des pyramides. Donc les seuls éléments qui nous permettent de comprendre ces édifices, c'est ces édifices eux-mêmes. Donc faut les interpréter. Faut s'aider aussi, faut établir des corpus, faut les regarder dans leurs différences, faut les regarder tous, et puis chaque bâtiment, chaque vestige a conservé des détails qui permettent de comprendre d'autres sur d'autres monuments. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc malheureusement, non, on n'a pas de d'informations sur leur conception. Le document le plus ancien que l'on ait et qui est assez exceptionnel a été découvert il y a une dizaine d'années par l'équipe de Pierre Tallet au Wadi El-Jarf. Sont des papyrus qui parlent qui sont relatifs à la construction de la pyramide, puisqu'ils parlent de l'acheminement des blocs de parements, justement, qui étaient extraits dans les carrières de Toura, à quelques kilomètres du Caire. Et voilà, ça c'est des documents qui sont exceptionnels, qui sont d'ailleurs les plus anciens papyrus connus, mais malheureusement de cette époque-là, on n'a pas d'autres documentation technique.
En effet, ces papyrus, ces manuscrits de la mer Rouge, on y reviendra, hein, où on voit comment ont été, enfin on a même accès à un sorte de journal de bord du chantier de l'iconique pyramide de Khéops. Franck Monnier, je reviens sur ces plans, en tout cas de conception de ces monuments. On n'a pas de plan, on n'en a jamais trouvé. Par contre, il me semble qu'on a trouvé des maquettes.
Alors oui, c'est assez extraordinaire, parce que ces documents sont exceptionnels. Alors ce ne sont pas des documents qui ont trait à la conception proprement dite, c'est-à-dire ce n'est pas l'idée première qui est exposée avec ces maquettes, mais ce sont plutôt des tests opérés à échelle miniature. Par exemple, on a une maquette en calcaire, qui représente d'une manière schématique, en trois dimensions, les appartements funéraires d'une pyramide du Moyen Empire. Et en fait, cette maquette s'attarde spécifiquement sur les systèmes de protection, c'est-à-dire les herses coulissantes qui venaient débarrer les passages, et sur la manière dont il fallait sceller le tombeau, le caveau, voilà, avec une grosse dalle comme ça qui venait clôturer l'ensemble. Donc on a vraiment l'impression qu'avec cette maquette, une assemblée de techniciens essayait d'expliquer la manière de fonctionner des appartements funéraires et du scellement du tombeau. Voilà. Et à la pyramide de Khéops, on a un autre type de maquette qui se situe à l'extérieur, donc que tout le monde peut voir, à l'est de la pyramide. On a une sorte de version miniature des appartements funéraires de la pyramide de Khéops. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'en plus, l'accent est mis de la même façon sur les systèmes de fermeture. On voit le rétrécissement des couloirs qui devaient accueillir les blocs bouchons qui venaient sceller l'ensemble. Voilà. Donc, ce sont deux documents assez exceptionnels qui sont très peu connus, hein, il faut le dire, mais voilà, qui ont trait quand même à la conception d'une certaine manière des monuments, des pyramides.
Puisque c'est vrai que là on parle du gros œuvre des pyramides, mais Emmanuel Larouze, elles ne sont pas vides. Et en effet, les espaces intérieurs, ça complexifie beaucoup la construction aussi de ces monuments-là.
Oui, car là, en fait, avec les pyramides, se pose une des questions majeure en Égypte, c'est celle de la couverture. C'est comment couvrir des espaces vides dans des... déjà, trouver des systèmes pour couvrir des espaces d'une certaine dimension. La chambre de Khéops mesure quand même plus de 5 mètres 50 de côté, ce qui est déjà dans la limite de la portée de la pierre. Et ils l'ont non seulement... donc réalisée, et ensuite elle est recouverte par presque 70-80 mètres de maçonnerie dessus. Donc ils ont été obligés de développer des systèmes particulièrement audacieux et innovés également pour couvrir ces espaces avec un tel poids dessus. Donc effectivement, les chambres à l'intérieur des pyramides ont été à source d'innovation.
Ouais. Oui, Franck Bonnier, il faut imaginer la pression gigantesque qui devait s'exercer sur ces cavités.
Pour protéger ces chambres funéraires et ces couloirs d'accès, les techniciens se sont comportés en ingénieurs, vraiment au sens propre. Ils ont dû, voilà, imaginer des systèmes, les tester, et puis, avec l'expérience, les améliorer. Donc, on a des voûtes comme ça, très puissantes, hein, qui sont constituées de monolithes, qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes chacun. Hein, c'est vraiment très impressionnant.
Le mystère de la construction de la Grande Pyramide vient peut-être d'être percé par ces hommes. Pour cela, ils ont utilisé une technique de réalité virtuelle en relief et ont exploité les résultats de travaux scientifiques passés inaperçus jusqu'ici. En 1986, une équipe de Français avait exploré, dans leurs moindres détails, toutes les chambres de la pyramide de Khéops. À l'époque, ils enregistrent une anomalie dans la masse de pierre. Récemment, un architecte, Jean-Pierre Houdin, a eu l'intuition que cette anomalie correspondait en réalité à une galerie encore inconnue.
Une rampe intérieure en galerie, c'est-à-dire comme un tunnel, qui va serpenter au gré de la montée de la pyramide. À l'intérieur de la pyramide, vous voyez, elle monte comme ça, en spirale, dans la peau de la pyramide. Et elle va permettre d'arriver au sommet et permettre aux ouvriers d'amener les pierres jusqu'au sommet.
Cette galerie en pente douce à 7%, longue d'1,6 km, aurait permis à un nombre limité d'ouvriers de transporter les 5,5 millions de tonnes de pierre nécessaires à la construction en quelques décennies seulement. Jean-Pierre, l'architecte, a fait également une seconde découverte concernant la chambre du roi Khéops.
Le roi demande une chambre à 43 mètres du sol et en complément, il demande un plafond plat. Le plafond plat va impliquer des poutres de 60 tonnes pour pouvoir... monter ces poutres de 60 tonnes, il va falloir installer une sorte de grue de chantier dans la pyramide. Et la grue de chantier, ça va être un contrepoids. Un contrepoids qui va être fait de blocs qui vont circuler sur un chariot qui va se déplacer dans une coulisse. Et cette coulisse du contrepoids, c'est la grande galerie qu'on voit actuellement. Et c'est là où le chantier de Khéops est un chantier extraordinairement moderne. C'est que les concepteurs, les architectes et les ingénieurs ont intégré au monument les outils, les moyens de réaliser leur construction.
Voilà, un reportage de 2007 sur France 3. Emmanuel Larose, voilà, sur cette grande galerie du roi à l'intérieur de la pyramide de Khéops et sur les mystères de sa construction.
Alors cette grande galerie est tout à fait remarquable car c'est une galerie dite en tas de charges, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement, un rapprochement, on va dire, des parois au fur et à mesure où les parois s'élèvent et qui permettent tout en haut de se réunir et donc de couvrir l'espace de la galerie. Et cette technique a été développée dans les pyramides précédentes, notamment sous Snéfrou, et elle était parfaitement efficace, elle fonctionnait extrêmement bien. Celle de Khéops a la particularité d'être en plus en pente. Ce qui est étonnant, c'est que cette grande galerie a parfaitement fonctionné, elle est toujours en place, elle a été abandonnée. C'est-à-dire que c'est la dernière structure en tas de charges qui a été utilisée. Et ensuite, c'est les chevrons qui ont été aussi intégrés dans la pyramide de Khéops qui ont pris la suite. C'est-à-dire que pour couvrir ces espaces, les architectes égyptiens ont préféré utiliser des voûtes à chevrons.
D'ailleurs, Franck Monnier, vous avez, avec Emmanuel Larose, en 2024, vous avez co-signé un article justement sur ces mystérieux espaces vides qui sont empilés au-dessus de la dernière demeure de Khéops.
Oui, allô?
Oui, vous nous recevez.
Oui, excusez-moi, j'ai eu une micro-coupure.
Oui, je faisais allusion à votre article que vous avez rédigé ensemble avec Emmanuel Larose sur justement ces voûtes à chevrons des chambres funéraires de la grande pyramide de Khéops.
Oui, alors c'est vrai que les voûtes en chevrons constituent peut-être l'élément architectural des pyramides le plus impressionnant. On s'attarde beaucoup sur la construction, c'est-à-dire l'élévation, la mise en place des blocs, etc. Ce qui est un problème important, hein, je ne nie pas, mais la construction des voûtes en chevrons pour couvrir, pour protéger le lieu d'éternité du pharaon, c'est vraiment l'aspect technique le plus, celui auquel il a fallu répondre, qui a posé le plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il a fallu sans doute plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, pour construire de grandes voûtes en chevrons qui s'élevaient sur plusieurs mètres de hauteur. Et installer des monolithes donc qui pesaient plusieurs dizaines de tonnes chacun, c'est vraiment un exploit technique assez extraordinaire.
Et leur système de pose demeure encore assez énigmatique. Elle a certainement d'ailleurs évolué dans le temps.
Leur système de pose. On va voir aussi quelles sont les grandes questions, mais d'ailleurs, vous évoquez la durée des travaux. Ça me fait penser justement à ces documents historiques dont on dispose. On a pas mal de spéculations autour de la construction de ces pyramides, et ce, dès l'Antiquité, chez les auteurs grecs, notamment chez Hérodote, dans Histoire, rédigé en -440 avant notre ère. Il est question justement de différentes temporalités, de chiffres, de main-d'œuvre absolument hallucinantes. Mais Emmanuel Larose, quel crédit accorder aux historiens antiques, en tout cas au récit du grec Hérodote?
Alors ça, je ne peux pas trop vous répondre sur cette question-là. Franck pourra peut-être mieux, mais ce que l'on sait, c'est que les constructions des pyramides duraient le temps du règne du roi, puisque à la mort du roi, il fallait qu'il soit enterré dans son tombeau, et le suivant devait tout de suite construire le sien. Donc le temps des constructions était relativement court. On sait que par exemple pour la plus grande pyramide de Khéops, le temps de construction était compris entre 20 et 27 ans.
Franck Monnier, justement, sur ces textes de Hérodote.
Oui, alors, ils sont intéressants du point de vue historique, puisque ce sont les premiers à s'attarder sur le problème. Voilà, à se poser la question, mais comment les Égyptiens de cette époque ont-ils bien pu faire pour élever une masse aussi gigantesque? Donc Hérodote s'interroge, et il questionne, en fait, des prêtres égyptiens, du 5e siècle avant Jésus-Christ, on est au 5e siècle, hein, là. Donc 2000 ans plus tard, il interroge des prêtres égyptiens pour savoir voilà, comment cette pyramide a pu être construite. Et les prêtres égyptiens lui racontent qu'elle a été construite d'abord en gradin, qu'après, à l'aide de machines en bois, on a pu élever les blocs pour venir achever les faces lisses de la pyramide. Alors ça, c'est un témoignage beaucoup plus tardif. Il est suffisamment vague pour que chacun l'interprète un peu à sa manière, qu'il soit utile à toutes les théories. Il faut savoir que Diodore de Sicile, par exemple, 4 siècles plus tard, lui va s'exprimer aussi sur ce sujet et il va donner des informations différentes. Selon Diodore de Sicile, en fait, la pyramide aurait été construite à l'aide de terrasses, c'est-à-dire à l'aide de rampes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est bien documenté en archéologie.
Diodore de Sicile, en effet, historien grec du 1er siècle avant notre ère, et cette hypothèse qu'il pose, enfin pas hypothèse qu'il pose, mais en tout cas sur la technique des rampes, Emmanuel Larose, il se trouve en plus qu'on a fait des découvertes de rampes, en grande partie intactes dans les vestiges archéologiques.
Oui, alors il y a une rampe d'ailleurs assez qui a fait grand bruit dans les carrières d'Atnoub, qui date d'ailleurs de la période de Khéops et qui est assez particulièrement inclinée. Alors je ne sais plus exactement le degré, mais elle est fortement inclinée, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et on sait que de blocs très très lourds ont été retirés de cette carrière. Donc sur les rampes, oui, on a beaucoup d'exemples conservés à Licht. On a des rampes qui sont conservées avec des traverses en bois qu'on a retrouvées. Donc on sait qu'elles étaient équipées aussi de traverses en bois pour justement permettre aux traîneaux qui étaient utilisés pour le transport de ces blocs, pour pouvoir les acheminer en haut des échafaudages.
Mais justement, comment, Franck Monnier, ça s'organisait, ces opérations d'acheminement de blocs avec ces organisations d'échafaudages et de rampes?
Alors c'est une question de logistique, et là c'est vrai que les Égyptiens ils se sont montrés ingénieux en termes techniques, mais aussi en termes logistiques, parce qu'en fait il a fallu coordonner des milliers de bras, alors des milliers, voire des dizaines de milliers, voilà, de personnes, pour acheminer les blocs des carrières jusqu'au chantier de la pyramide. Déjà, on empruntait le fleuve ou un bras du fleuve. Donc ça se faisait par voie fluviale. Et après, on déchargeait les blocs sur terre, donc à quelques centaines de mètres du chantier de la pyramide, et là, on tractait les blocs par la force des bras, hein, principalement sur traîneau. Voilà.
Et bien justement, comment ces blocs transportés à travers le pays entier, comment justement le Nil a-t-il eu un impact majeur sur la construction des pyramides ? Restez à l'écoute, on y arrive. Structures, pyramides en direct sur France Culture, car nous nous intéressons, pour ce premier épisode consacré à l'égyptologie, nous nous intéressons à la construction des pyramides en compagnie de nos deux invités, Emmanuel Larose, architecte ingénieur de recherche au CNRS, laboratoire Orient et Méditerranée, et Franck Monnier, ingénieur et égyptologue, chercheur CNRS dans l'équipe ASAE, laboratoire Arscan. On vient de voir que les pyramides et leur construction, ce sont une concentration des sciences et des techniques de l'Égypte antique. On a évoqué très rapidement les spéculations au sujet de leur construction. Il y a une spéculation qu'on n'a pas abordée ensemble, Emmanuel Larose, c'est la théorie des fausses pierres. C'est un chimiste français qui, dans les années 70, fait cette théorie, voilà, que les pyramides seraient faites de blocs en pierre moulée, un peu comme le béton.
Alors, moi, ce que je peux dire, moi, j'ai donc travaillé souvent sur le terrain, c'est que les pyramides sont construites avec des vraies pierres. C'est taillé avec des pierres qui ont été extraites. On connaît les carrières, on sait où ça a été extrait, on a les marques d'outils sur ces pierres, donc c'est des vraies pierres. Ce qui s'est passé, c'est que c'est probablement, au moment de la taille, on s'est rendu compte... Qu'en mêlant, alors ça c'est dans le cadre d'une expérimentation qu'on a menée au Wadi El Jarf avec un collègue tailleur de pierre, Franck Burgos, on s'est rendu compte qu'en taillant la pierre, on pouvait augmenter la rentabilité en ajoutant de l'eau. Et cette pierre qui était extraite avec de l'eau prenait un aspect un petit peu sableux. Et ce sable, on pouvait, en le compactant, reformé, ça reprenait un peu forme. Alors, ça n'avait pas du tout la même résistance, mais on pouvait... Et c'est peut-être ces choses-là qu'a vu ce chercheur. Voilà, je ne peux pas en dire plus, parce que moi, j'ai pu expérimenter ça, et effectivement, dans certaines pierres calcaires peuvent prendre un aspect un peu pâteux.
Franck Monnier, en effet, l'origine de la pierre naturelle, ça fait partie des éléments de construction des pyramides qu'on comprend à peu près complètement.
Oui, alors les indices, les témoignages, les preuves archéologiques sont suffisamment nombreux pour admettre sans douter que les pyramides, enfin que les pierres des pyramides ont bien été taillées, sculptées et proviennent de carrières qu'on a exploitées. Ce ne sont pas des blocs qu'on a concassés pour reproduire ensuite sous forme de blocs par moulage. Et en fait, c'est vrai que la théorie finalement n'a pas beaucoup de sens déjà au départ, puisque elle vient essayer de résoudre un problème qui est celui-ci. D'après les partisans des pierres moulées, les Égyptiens en fait n'avaient pas les capacités techniques de mettre en forme les pierres les plus dures, par exemple comme le granit qu'on rencontre dans la pyramide de Khéops. Et donc ils auraient été obligés de mouler ces blocs de granit à partir de poudres de roche. Mais pour produire ces poudres de roche, il faut être capable de concasser le granit. Donc ça veut dire que la théorie, finalement, elle admet comme possible ce qu'elle entend corriger à la fin. Donc voilà, c'est pas l'un des moindres paradoxes de la théorie. Mais du point de vue pratique, je dirais que voilà, on rencontre sur les sites, n'importe qui peut aller visiter la pyramide de Khéops et voir de lui-même, d'elle-même, les traces de taille des blocs. On voit certains blocs au pied de la pyramide qui possèdent des traces d'outils. Et on a aussi des espaces entre ces blocs qui sont comblés de mortier. C'est-à-dire que rien ne correspond à un moulage. On voit aucune trace de moulage nulle part. Par contre, on voit bien des traces de carrière. Même près des pyramides à Gizeh, on voit des traces de carrière. On a encore le quadrillage comme ça, des empreintes, des blocs qu'on a extirpés du sol.
Ce qui a pu aussi interpeller le chercheur, c'est l'aspect des joints qui sont parfaitement jointifs, qui sont presque invisibles sur certaines pierres. Et en fait, ces joints parfaits étaient aussi réalisés avec le passage d'une scie. Ça, c'est bien attesté, c'est-à-dire qu'on rapprochait les deux blocs et on passait une scie dans ce joint. Et une fois qu'on avait passé ce trait de scie, il donnait une découpe parfaitement identique aux deux faces du bloc. Et en le repoussant, on pouvait avoir des joints quasiment invisibles. Et ce qui a pu aussi induire peut-être en erreur et avoir l'impression que les blocs n'ont pas de joints.
Alors, en effet, ces blocs, en tout cas, ont bien été acheminés depuis des carrières. Et on a commencé à l'évoquer. Comment, Franck Monnier, comment? Parce que le Nil et l'Égypte, à cette époque, n'avaient pas le même visage qu'aujourd'hui. Il faut le rappeler que l'Égypte est une civilisation de l'eau à ce moment-là.
Oui, c'est une civilisation hydraulique, oui. L'Égypte s'est développée au bord du Nil pour tout ce qu'il a apporté en matière de crue. Il a fertilisé les terres, donc l'agriculture s'est développée. Et les Égyptiens ont pu développer aussi leur système de communication en le centrant sur le Nil, l'artère névralgique, voilà, qui traverse le pays du nord au sud. Donc le Nil se déploie après en ramification au niveau du delta, mais il y a aussi des bras qui se séparent en Moyenne-Égypte. Et donc à partir de ces bras ou du Nil, on a aussi creusé des canaux. Voilà. Les Égyptiens ont très tôt creusé des canaux, ils ont quadrillé en fait le pays de canaux. Et donc à travers ce réseau fluvial que les Égyptiens ont pu déplacer leurs matériaux des carrières jusqu'au chantier de pyramide. C'est ça, c'est vraiment c'est un aspect primordial d'un chantier, enfin des chantiers de construction égyptiens.
Emmanuel Larose, en effet, ces pyramides donc étaient longées des cours d'eau.
Oui, c'est vrai que l'eau était le transport fluvial est vraiment une spécificité de la civilisation égyptienne. Car les Égyptiens n'hésitaient pas à aller chercher des blocs très loin. Le granit rouge provient des carrières d'Assouan et des blocs de granit ont pu être déplacés en très grande quantité sur des très longues distances pendant toute la civilisation égyptienne. Et c'est vraiment ce Nil effectivement qui a structuré le pays et qui a permis des échanges et une logistique tout à fait singulière qui n'existe pas dans d'autres civilisations.
Pour revenir sur justement cette découverte archéologique majeure, qui est la découverte de ces parchemins, de ces manuscrits de la mer Rouge, qui ont été donc découverts de 2013 par Pierre Tallet, Franck Monnier. Là, on a accès à un document qui est complètement exceptionnel, c'est le journal de Merer. Et là, on a entre les mains, entre guillemets, les documents d'un chef de projet, en quelque sorte. On a accès au chantier de la pyramide de Khéops.
Oui, c'est un témoignage oculaire couché sur le papier, finalement. C'est un vrai procès-verbal d'une personne, alors pour ainsi dire, d'une personne qui a participé, voilà, et qui a été témoin, témoin elle-même du chantier de construction de la pyramide de Khéops. Donc c'était Merer était chef d'équipe. Il avait il était responsable en fait d'une équipe d'une quarantaine de personnes. Et son équipe allait chercher des blocs à la carrière de Toura, des blocs de calcaire fin, pour les charger sur leur bateau. Ils avaient leur propre bateau. Et ensuite, ils se dirigeaient vers la pyramide de Khéops, qui se situait quelques kilomètres plus au nord. Et ensuite, ils refaisaient exactement le chemin inverse, mais à vide, parce qu'ils avaient déchargé les blocs qu'ils avaient eu pour mission d'acheminer. Et tout ça est décrit vraiment point par point, jour par jour, sur le journal de Merer. Parce qu'en fait, Merer, avec ce journal, il devait rendre des comptes à son administration du travail effectué. Voilà. Donc c'est vraiment un journal qui est un témoin essentiel de la logistique d'un chantier de construction de l'ancien empire.
Emmanuel Larose, on a fait ce journal qui confirme le transport par voie fluviale, mais on a aussi un journal qui nous en apprend plus également sur les conditions dans lesquelles ces pyramides ont été construites, notamment sur la main d'œuvre, sur est-ce qu'il s'agissait là d'ouvriers, d'esclaves. On a aussi accès à ces informations-là.
Alors, il faut savoir que la construction d'une grande pyramide comme celle de Khéops impliquait le royaume entier. C'est-à-dire que à tous les niveaux, les habitants étaient engagés dans un tel projet. Il faut imaginer que sur un chantier il y avait on peut estimer entre 20 000, 30 000, 40 000 personnes, on ne sait pas exactement, mais sur le chantier même. Mais on avait également énormément de personnes qui travaillaient plus loin pour aller chercher des minerais de cuivre, pour aller faire les outils, pour aller chercher du bois au Liban, pour fabriquer des vases, des paniers, nourrir toutes ces personnes sur le chantier. Donc en fait, c'est très difficile à estimer le nombre de personnes qui y travaillaient, mais c'était des chantiers effectivement vraiment très très importants.
Franck Monnier, qui a construit les pyramides?
Alors, une foule très variée en fait de professions et d'artisans. Alors, on a des ouvriers qualifiés, ceux qui fabriquent les outils, les techniciens qui doivent fabriquer les rampes ou concevoir les rampes, hein, les traîneaux, les cordages, etc. Ce sont des artisans. Mais on a aussi les manœuvriers, voilà, pour ainsi dire, les hommes non qualifiés à qui on a loué la tâche tout simplement de tirer, voilà, de tirer les blocs. Et donc ces gens-là, soit ils étaient égyptiens, soit c'était des captifs ou des gens qu'on forçait au travail, qui avaient pu être punis pour une quelconque raison, des prisonniers par exemple. Mais en tout cas, ce sont des gens qui avaient la tâche la plus rude. Voilà, faut savoir que par exemple, on peut imaginer qu'en plein été, tracter des blocs de plusieurs tonnes, ça devait pas être une partie de plaisir. Donc ces gens-là, vraiment, voilà, ils avaient la tâche la plus pénible. Et donc les Égyptiens, en tout cas les pharaons de cette époque, certains pharaons, comme le père de Khéops, Snéfrou, pour décharger ce type de travail, pour décharger un peu le fardeau qui pesait sur le peuple égyptien, avaient conduit des missions, des expéditions en terre étrangère. Donc il y a un document qui s'appelle les Annales de la pierre de Palerme, qui reprend comme ça, qui décrit des événements, les événements les plus importants en fait des règnes de l'époque. Et sous Snéfrou, il est dit que, en fait, son armée s'est rendue en Nubie, donc plus au sud, pour aller capturer des Nubiens et des Nubiennes, et aussi emporter le cheptel, c'est-à-dire des bœufs, des chèvres, etc. Donc on fait une grande razzia, on en ramène tous les biens possibles et imaginables, mais aussi la main-d'œuvre. Et donc cette main-d'œuvre, on peut très bien imaginer qu'elle a servi au chantier de construction.
Mais justement, sur ces chantiers, l'archéologie expérimentale nous a beaucoup aidé à comprendre comment se sont répartis les rôles sur ces chantiers de construction. Comment rester à l'écoute?
J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde.
France Culture.
Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide.
La science CQFD.
Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre.
Natacha Trioux.
Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Chacun de vous est lié à moi par un pacte. Qu'il travaille comme jamais homme n'a travaillé. Acceptez-vous.
Amen. 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 Amen.
En direct sur France Culture, nous parlons de la construction des pyramides avec Emmanuel Larose et Franck Monnier. Avant de parler d'archéologie expérimentale, il y a un point qu'on n'a pas abordé ensemble, un point fondamental, Emmanuel Larose. Les Égyptiens ne possèdent vraisemblablement pas le concept d'angle. Ils n'avaient pas accès à ces mesures en degrés. Alors comment a-t-on préparé une construction de pyramide? Comment pouvait-on reproduire des angles au degré près sans cette mathématique-là?
Alors effectivement, ils ne connaissaient pas les angles comme... en tout cas, ils n'exprimaient pas les angles de la même manière que nous. Ils utilisaient des rapports, un rapport de hauteur sur une distance horizontale. Et grâce à ce rapport, ils pouvaient qualifier un angle. Alors, il faut savoir que les pyramides ont toutes des angles, enfin des rapports, simple d'angle. Je donne un exemple, la pyramide de Khéphren a un rapport de 4 sur 3, c'est-à-dire que on a 4 en hauteur pour une distance horizontale de 3. Pyramide de Khéops, 14 sur 11. Et ces angles ont certaines propriétés, et en tout cas, elles sont relativement simples à reproduire pour justement que tous les personnes sur le terrain puissent avoir toujours reporter le même angle sur le monument pendant sa construction. Il faut savoir aussi qu'on utilisait en termes de distance, le terme de coudée, qui correspondait à environ un demi-mètre, et qui était décomposé en 7 palmes et 28 doigts. Voilà, une coudée, c'est 28 doigts. Et donc, avec ce système on pouvait à peu près découper et reprendre toutes les longueurs que l'on voulait.
Franck Monnier, on a aussi des papyrus avec des problèmes mathématiques sur les pentes des pyramides.
Oui, alors ces papyrus qu'on appelle papyrus Rind, datent du Moyen-Empire, fin du Moyen-Empire. Donc ils sont beaucoup plus tardifs quand même que les pyramides. Et en fait, on se servait du sujet des pyramides pour apprendre aux écoliers à calculer des rapports de pente. Alors, ce rapport de pente qu'a très bien expliqué Emmanuel s'appelait le séquède. En fait, le séquède, c'est l'unité de longueur. C'est-à-dire, si je monte d'une coudée, de combien je dois avancer pour former cet angle? Alors, je dis cet angle, bien sûr, eux n'avaient pas cette notion d'angle, mais c'est pour expliquer. Mais voilà, donc le papyrus Rind, c'est une sorte de cahier d'écolier, comme ça, qui reprenait alors les monuments les plus emblématiques du pays, voilà, pour essayer de faire rentrer dans la tête des élèves des notions de mathématiques.
Alors, venons-en maintenant, après ces notions de mathématiques, parlons de ces notions très concrètes et expérimentales, de l'archéologie expérimentale dont vous êtes d'ailleurs, c'est votre spécialité, Emmanuel Larose. On a accès quand même, vous dites, aux outils, ça, l'origine des pierres, tout ça, on connaît ça très bien, les maillets en bois, les burins en cuivre, ça c'est quelque chose qui ne fait pas de mystère pour les archéologues.
Non, c'est vrai que les outils ont été retrouvés en très grand nombre sur plusieurs terrains. Donc on connaît assez bien les outils utilisés à cette époque-là. Il faut savoir que à cette époque, on utilisait encore beaucoup d'outils en pierre, des outils lithiques, notamment pour la taille des pierres dures, c'était presque obligatoire. En revanche, pour les pierres plus tendres comme le calcaire, on pouvait utiliser effectivement des outils en cuivre. À cette époque-là, c'était des outils assez petits encore, ces outils permettaient d'augmenter la cadence d'extraction des blocs. Et effectivement, sur les expérimentations, on a pu en mener dans le cadre de la mission du Wadi El Jarf. On a monté deux opérations expérimentales, l'une pour l'extraction d'un bloc de calcaire d'un mètre cube, et on a ensuite essayé de le transporter à l'aide d'un traîneau. Et donc on a essayé, on a expérimenté ces moyens de transport qui s'est avéré assez efficace, puisque avec une trentaine de personnes, on est capable de hisser un bloc de 2 tonnes sur une pente de 8% en... Donc on peut hisser sur à peu près de 3 mètres en hauteur en une quarantaine de secondes. Donc nous, on a appris en expérimentant, on essaye de reproduire les gestes, d'essayer de comprendre comment ils avaient effectué ces tâches. Mais nous, on apprend, donc on n'est probablement pas aussi efficace que eux l'étaient. Alors, eux, ils faisaient ça toute la journée. Pour revenir sur les équipes qui réalisaient ces transports, je pense que c'était des équipes relativement soudées, en tout cas pour la tâche le halage, puisqu'on s'est rendu compte, ça c'est l'expérimentation qui nous l'a montré, qu'il fallait vraiment travailler d'un seul homme. C'est-à-dire que les 30 personnes devaient être extrêmement synchronisées dans les mouvements. L'expérimentation aussi a permis de montrer que le démarrage, au moment où on met en branle le bloc, c'est une opération assez compliquée qui demande pas mal d'efforts. Ensuite, une fois qu'il est en mouvement, c'est plus facile.
Le halage et en effet l'expérimentation, une trentaine de personnes qui tirent des cordes et des blocs, c'est pas beaucoup de personnes finalement. On parlait justement de la masse, de la foule de travailleurs que ça représentait.
Alors pour Khéops, on sait que pour tenir le rythme, comme on sait le temps qu'a duré le chantier et le nombre de blocs qui ont été déposés, on peut faire des estimations et il faut imaginer qu'il y avait à peu près entre 250 et 400 blocs qui étaient posés par jour. Donc voilà, il faut imaginer des hordes de traîneaux qui toute la journée. Mais l'expérience a montré que c'était relativement rapide finalement, puisque et en tout cas ça fonctionne bien.
Franck Meunier, quelles sont les dernières questions qui restent en suspens sur cette fabrication de ces édifices?
La question principale, en fait, à laquelle on n'a pas vraiment d'éléments de réponse, on a une idée vague, mais vraiment très vague, c'est la manière vraiment dont on a installé en dernier lieu les blocs, c'est-à-dire en haut de la pyramide. Voilà. Au fur et à mesure de l'élévation de la pyramide, il y a de fortes chances qu'on ait utilisé une rampe gigantesque, parce que ça, on a des vestiges de rampes. Il y a beaucoup de témoignages, même écrits aussi, qui évoquent des rampes de construction. Donc là, il y a peu de doute à ce sujet. En revanche, après, c'est la manipulation des blocs, c'est la manière de les installer sur l'assise en construction, là. C'est vrai que il nous manque beaucoup d'informations, on n'a pas de témoignages. Alors, on aurait pu en avoir un. C'est un document qui est assez exceptionnel aussi, hein, comme tous les documents, qui sont tellement rares, donc qui ont trait à la construction des pyramides, c'est le halage d'un pyramidion, c'est-à-dire le bloc le plus pointu qui venait couronner l'édifice, qui venait en fait coiffer la pyramide tout en haut. Et il y a une pyramide à Abouzir, comme ça, qui a livré un fragment de scène. Et cette scène représente des ouvriers qui tirent avec une corde le pyramidion. Et devant les ouvriers, on voit que la corde se dirige vers le haut, c'est-à-dire que la pyramide était certainement représentée, et peut-être aussi le moyen par lequel on devait élever le pyramidion. Mais malheureusement, cette scène est fragmentaire et toute cette partie-là a disparu.
Emmanuel Larose, en effet, en architecture expérimentale, comment est-ce qu'on installe les derniers blocs? Ça, on ne pourra pas passer par l'architecture expérimentale. On peut que espérer trouver d'autres documents, des témoignages dans les archives archéologiques.
Oui, en fait, c'est un peu la vocation des archéologues, c'est de trouver des nouvelles informations sur le terrain, que ce soit par l'expérimentation, par l'archéologie, par la découverte de documents iconographiques. Et effectivement, on trouvera certainement d'autres informations dans l'avenir. Après, est-ce qu'on aura toutes les réponses? Ça, c'est moins sûr.
En tout cas, nous aurons la chance jeudi de rencontrer Pierre Tallet qui nous racontera cette découverte. Bah, quand même, c'était un coup de chance, des manuscrits de la Mer Rouge. Mais en attendant, on va retrouver la chronique d'Alexandra Delbo. Pour prolonger l'écoute, je vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à se tourner vers votre ouvrage, Franck Meunier, La science face au dossier mystérieux de l'Égypte ancienne. C'est paru en mars dernier chez Actes Sud. Un grand merci à vous deux. Tout de suite, on quitte l'égyptologie pour la botanique et les stratégies des Blancs pour attirer les pollinisateurs. C'est la chronique avec science.
La chaleur serait-elle le premier langage entre plantes et pollinisateurs? La pollinisation, c'est le transfert du pollen des organes mâles aux organes femelles des plantes, et c'est indispensable parce que sans ça, pas de reproduction efficace. Il existe des cas d'autofécondation, mais ce n'est jamais une solution vraiment pérenne pour l'espèce. Le pollen doit se déplacer. Cette pollinisation peut être passive, par le vent par exemple, mais ce qui fonctionne le mieux, ce sont les insectes. Eux tirent évidemment un bénéfice, le pollen contient beaucoup de protéines. C'est donc une source d'énergie. Et puis, indirectement, pour l'ensemble de la biodiversité, si les plantes se reproduisent, elles peuvent fabriquer des graines ou des fruits qui serviront à tout le monde. Depuis que les plantes existent, elles ont développé une panoplie de stratégies pour attirer à elles les insectes pollinisateurs. Marjorie Liénard est biologiste et chercheuse à l'Université de Liège.
Les plantes ont développé un répertoire vraiment étonnant en fait de signaux pour attirer les pollinisateurs. Alors on connaît forcément les couleurs et les parfums qu'on peut même parfois nous percevoir. Et ça, c'est des signaux de pollinisation super bien établis. Mais il y a également d'autres éléments un peu peut-être moins connus qui peuvent jouer un rôle comme l'humidité ou la chaleur. Mais on sait depuis à peu près deux siècles que certaines plantes arrivent à produire de la chaleur. Donc ça a déjà été observé par des naturalistes comme Lamarck, par exemple. Et on sait aussi mesurer cette chaleur. Donc certaines plantes, en fait, peuvent produire de la chaleur parfois jusqu'à même 35 degrés au-dessus de la température ambiante. Et donc ça a toujours un peu intéressé les scientifiques et les botanistes en particulier. Et donc ils ont compris, il y a déjà quelques décennies, que c'était dû à la production de respiration. Donc c'est un métabolisme mitochondrien. Donc dans nos cellules, il y a des mitochondries qui produisent de la chaleur, et bien les plantes, elles font pareil. Et ça va leur permettre, en fait, soit d'activer leur cycle de reproduction, produire le pollen, activer la maturation des ovules, etc. Et on n'était jamais certain que des pollinisateurs pouvaient l'utiliser comme un signal direct.
La chaleur produite par ces plantes, qu'on dit thermogénique, était déjà connue pour avoir plusieurs fonctions. Déclencher la libération du pollen, favoriser la fécondation et même aider à diffuser leur parfum. Mais est-ce que la chaleur, et seulement elle, est un signal direct pour l'attraction des pollinisateurs? C'est le sujet de cette nouvelle étude parue dans la revue Science. Et on connaît beaucoup de plantes qui produisent de la chaleur. Il y a le lotus par exemple, les magnolias, la grande famille des aracées, ainsi que les cycadées. Ce sont celles qui nous intéressent ici, en particulier le cycas. Elle a des feuilles semblables à celles des palmiers, alors qu'elle est en fait plus proche des conifères. Les cycadées sont apparues il y a 300 millions d'années, bien avant donc les plantes à fleurs. La reproduction passe chez elles non pas par des fleurs, mais par des cônes. Tout l'enjeu de cette étude qui a débuté dans le jardin botanique de Montgomery en Floride est de combiner les observations et expériences pour tenter de voir si la chaleur seule suffit à attirer les insectes. Et résultat, la chaleur produite par la plante guide bien les pollinisateurs, en l'occurrence de petits coléoptères.
On a fabriqué des cônes en 3D qu'on a réussi à chauffer avec une sonde à l'intérieur qui vraiment reproduisait le pic de température spécifique de différentes espèces de cycas. Et on a pu montrer qu'en fait, les petits coléoptères se déplaçaient également en laboratoire uniquement vers les cônes chauffés et sur le point le plus chaud du cône. Donc c'était la chaleur vraiment radiante, thermique, infrarouge qui pouvait détecter à une certaine distance. Les cônes mâles vont chauffer d'abord. Donc il y a d'autres signaux qui interviennent et à un moment, le cône va non seulement perdre en température parce que la respiration métabolique est terminée et d'autres molécules odorantes en fait sont produites et cela fait fuir les mâles. Et les mâles vont alors s'orienter vers une autre source de chaleur qui sont les cônes femelles qui chauffent un peu plus tard. Et là, ces cônes femelles ne produiront pas de composés désagréables ou toxiques et donc les coléoptères vont y rester, vont pouvoir se nourrir et se reproduire.
Ce sont donc, au fond, des expériences très naturalistes, presque à l'ancienne, mais menées avec des outils modernes. Ces auteurs et autrices ont aussi identifié précisément où et comment cette chaleur est produite par la plante, dans ses mécanismes physiologiques, moléculaires et génétiques. Ils sont également allés voir du côté des insectes. Les coléoptères disposent au bout de leurs antennes de récepteurs sensibles à ce rayonnement thermique. Et l'étude ouvre aussi des perspectives évolutives. Les cycadées sont apparues donc bien avant les plantes à fleurs, et cette signalisation par la chaleur pourrait correspondre à l'un des tout premiers langages entre plantes et pollinisateurs, à une époque où les couleurs n'étaient pas encore devenues l'un des principaux outils de séduction. Derrière ces cônes chauffants, c'est donc toute l'évolution du dialogue entre plantes et insectes qui se dévoile.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.
Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Dali Yaha. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.